Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Ta team en poukou. Okapi.
Bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Comment mieux organiser les corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service avec John Kabudi-Budi. Il est ingénieur BTP et spécialiste en sécurité des bâtiments. Ingénieur John, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'Okapi Service.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Chers auditeurs et auditrices, si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Par SMS, envoyez vos commentaires et questions au numéro 099-706-9941, c'est aussi possible. Dès nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple le commentaire posté sur la page Facebook d'Okapi Service de M. Achille Kassongo depuis la ville de Lubumbashi, qui affirme que plusieurs incendies résultent des naissances à outrance et des stations-service hors normes, sans respect des normes, mais aussi d'une main-d'œuvre non qualifiée qui travaille dans le secteur. Nous entendons également vos commentaires dans le courriel dénommé service@radiocapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Naomi Moutoki réalise ces numéros. Debs vite à être à la prise des sons. Et Meshak Moutamoutou s'occupe pour sa part de l'édition multimédia. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces numéros d'Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Comment mieux organiser les corps de sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo? Nous débattons de ce thème dans cette première partie du magazine Okapi Service avec John Kabudi-Budi. Il est ingénieur BTP et spécialiste en sécurité des bâtiments. Et chers auditeurs et auditrices, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Plusieurs cas d'incendie sont documentés à Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC, à Bukavu, à Goma, à Beni, au cours de cette année. Et dans la plupart des cas, on note un déficit des services anti-incendie ainsi que du matériel propice pour faire face à ces drames. Et plusieurs observateurs estiment qu'il serait mieux de mettre en place des partenariats publics et privés des interventions rapides en cas d'incendie, mais également dans le cadre de la prévention des incendies. On voit souvent, on constate que les véhicules des sapeurs-pompiers arrivent souvent très en retard, des bâtiments déjà envahis par les feux. Et voilà, donc ce sont des scènes que nous vivons ici à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Alors, comment mieux organiser les corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo? Nous en parlons avec un autre invité. Je rappelle qu'il est expert en bâtiment et qu'il est ingénieur BTP, expert en sécurité des bâtiments. Ingénieur John Kabudi-Budi, dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par sapeur-pompier? Est-ce que c'est tout un métier, c'est toute une spécialité?
Merci beaucoup, monsieur Teddy, de m'avoir invité sur cette thématique extrêmement importante qui parle de la prévention d'incendie. Et je profite de l'occasion pour saluer les auditeurs et auditrices de la radio Capi. Les services des sapeurs-pompiers, c'est toute une spécialité. C'est toute une spécialité qu'il faut apprendre et maîtriser afin de pouvoir intervenir. C'est toute une discipline, c'est tout un métier qui demande à ce qu'on puisse aller sur le banc de l'école, être formé, être bien équipé, avoir la discipline, savoir les méthodes, comment est-ce qu'il faut intervenir en cas d'incendie. Je crois avoir donné la réponse à votre question.
Et quel est l'état des lieux de ce secteur, de cette filière que dressez-vous en RDC?
En RDC, c'est pitoyable, mon frère, c'est pitoyable dans le sens que ce travail des sapeurs-pompiers est en train d'exercer sans une base juridique. Je dois d'abord vous dire que le travail des sapeurs-pompiers exerce sous la puissance d'une autre discipline que j'appelle la prévention d'incendie. À partir du moment où le service de la prévention d'incendie n'est pas pris en charge dans notre pays et ce service de prévention d'incendie n'est pas connu dans notre pays, eh bien, nous pouvons avoir des sapeurs-pompiers, on ne peut pas trouver des solutions. En principe, d'abord, nous devrions commencer avec la loi sur la prévention d'incendie. C'est ça la première des choses qu'il fallait faire. Mais dans notre pays, il n'y a pas une loi sur la prévention d'incendie. Il y a aussi des sapeurs-pompiers, bien entendu, dans le pays qui exercent de leur manière, de leur façon, mais sans avoir d'autres juridiques. Il fallait d'abord, au préalable, réglementer le secteur de prévention d'incendie, parce que l'intervention d'incendie est différente à la prévention d'incendie. Ce qui se passe là-bas, c'est l'intervention d'incendie, ce n'est pas la prévention. C'est la prévention qui manque dans notre pays. Or, la prévention d'incendie, c'est ça même le travail qui doit se faire en amont. Mais ça n'existe pas. C'est ça donc l'observation
qu'il y a sur le terrain. Et cette prévention, ingénieur John Kabudi-Widi, en quoi elle consiste exactement?
Cette prévention consiste en ce que l'État congolais puisse réglementer les services de prévention d'incendie dans notre pays, faire les lois qui demandent à ce que tout travail doit être sécurisé, doit être réalisé selon les principes de prévention d'incendie. Il doit y avoir la loi qui réglemente la prévention d'incendie. À partir du moment où il y a la loi qui réglemente la prévention d'incendie, dans un bâtiment d'habitation, dans les hôtels, dans les écoles, dans les hôpitaux, quand il y a la loi qui prévoit la prévention d'incendie, et à ce moment-là, il faut avoir la main-d'œuvre. Dans ce domaine-là, la main-d'œuvre, ce sont des personnes qualifiées qui ont fait les études des projecteurs en prévention d'incendie, qui sont différents des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers ne sont pas des projecteurs en prévention d'incendie. Ça, c'est une autre discipline. Lorsqu'il y a la loi et qu'il y a la main d'œuvre des personnes bien formées qui savent comment est-ce qu'il faut faire, comment faire, comment dirais-je, la projection des préventions des incendies dans tous les plans de construction et comment réaliser ces constructions en prévention des incendies. À ce moment-là, ça devient maintenant facile pour les sapeurs-pompiers puissent exercer. Mais de la manière où les choses se passent dans notre pays, c'est très difficile. Donc la prévention d'incendie consiste à ce que le pays puisse mettre en place une loi de prévention d'incendie et chercher la main d'œuvre appropriée pour faire des projections dans tous les plans de construction et les respecter de manière que les sapeurs-pompiers puissent travailler.
Dans les pays où cette filière sont développées, la filière est développée, généralement on forme des sapeurs-pompiers et des spécialistes en anti-incendie dans quel département? Est-ce que c'est le domaine des BTP ou de l'ingénierie?
Ça doit être dans le domaine de l'ingénierie. Ici, en Suède, c'est 5 ans d'études universitaires. Un projecteur en prévention d'incendie, c'est un licencié, c'est un génie civil. C'est-à-dire quelqu'un qui prend le plan de construction, qui prend le plan des tunnels, le plan de route, le plan, par exemple, des stations d'essence. Il amène sa projection à lui dans ce plan-là, dans le sens que l'ouvrage puisse tenir contre l'incendie. C'est une discipline purement universitaire qui demande 5 ans d'études pour devenir un projecteur en prévention d'incendie, qui est différent des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, ils peuvent passer à une formation rapide, soit une année, ça dépend de leur niveau, ils deviennent les sapeurs-pompiers. Mais un projecteur en prévention d'incendie, c'est un universitaire qui a fait études universitaires. Et sans cela, laissez-moi vous dire que rien ne tiendra en République démocratique du Congo. Et surtout, que la pensée que nous puissions avoir l'électricité partout dans notre pays, et je vous assure qu'il y aura des catastrophes à partir du moment où cette discipline n'est pas mise en considération dans notre pays.
En dehors de la législation, de la loi qui n'est pas encore élaborée et promulguée, pour le cas de la RDC, que faut-il faire il est question de développer, parce que les villes s'agrandissent et de plus en plus on documente des cas des incendies à travers la République, à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, n'en parlons pas, des cas sont documentés régulièrement. Par où commencer exactement, en dehors de la loi? Quels sont les autres préalables que le pays doit réunir?
Il y a les toiboyou, Teddy. Ça, c'est les toiboyou. Rien ne va se passer. Parce qu'à partir du moment où il y a la loi, si la loi existait, et par conséquent, cette loi-là touche même l'environnement, touche le ministère d'environnement, la loi va toucher le ministère de superstructure et infrastructure, la loi touchera même le ministère des transports, y compris le ministère d'urbanisme et habitat. Vous voyez ça? Mais comment les appels pour travailler en République démocratique du Congo à partir du moment où il n'y a pas cette loi-là? Vous me demandez, vous posez la question, par où commencer à cause de l'absence de cette loi? Ça pose des problèmes parce qu'il y a des maisons en République démocratique du Congo où même le véhicule des sapeurs-pompiers ne peut pas passer.
Pas accéder.
Nous avons de 2 mètres, de 3 mètres. Alors comment les sapeurs-pompiers vont passer? Tout ça, c'est par manque de réglementation. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler là où ils peuvent travailler. Mais à 80%, le travail sera purement inefficace. Parce que, laissez-moi vous dire que, juste là, en République démocratique du Congo, il n'y a pas là où les sapeurs-pompiers peuvent s'approvisionner en eau. Lorsqu'ils viennent avec l'eau dans leur camion et l'eau s'épuise, où est-ce qu'ils vont prendre de l'eau? Ça posera des problèmes. C'est la raison pour laquelle nous martelons sur la réglementation ou les lois liées à la prévention des incendies. Dans les contextes actuels, c'est très difficile de faire un travail efficace à ce qui concerne les services des sapeurs-pompiers. Et donc, ils peuvent réussir dans d'autres endroits, mais pas à 100%.
Oui, donc dans le cadre de l'urbanisation des lotissements, des terrains, il est également très important de prévoir et de faire également de la prévention dans le cadre des incendies dans les différents quartiers qui se développent.
Voilà. Vous avez tout dit, mon frère. Vous avez tout dit. C'est-à-dire, on ne peut pas lotir un endroit, on ne peut pas construire dans un endroit sans tenir compte des préventions d'incendie. Absolument pas. Mais aujourd'hui, les gens construisent à Maluku, les gens construisent à Biboua. Qu'est-ce qui est prévu en cas d'incendie? Rien du tout.
Même ici en ville, même ici à Langombe.
En République démocratique du Congo, les gens veulent avoir de l'électricité, avoir les industries. Est-ce que vous vous imaginez les catastrophes qui vont venir dans le pays? Donc, c'est-à-dire dans les services de lotissement, dans les services d'environnement, dans les services même des transports, même les transports, la construction de superstructures et infrastructures, on doit insérer la prévention d'incendie. Dans d'autres pays, même il y a les routes spécialisées, les voies spécialisées, rien que pour les sapeurs-pompiers. De façon que ces derniers arrivent rapidement sur le terrain.
Pour éviter les embouteillages ou les obstacles sur les chaussées principales, donc ils peuvent faire des déviations uniquement pour, dans le cas de la prévention et des interventions rapides.
Mais voilà. vous voyez la route de circulation à Kinshasa, ce sont les motos qui sont là-bas, ce sont les piétons qui sont là-bas, ce sont même les piétons, ce sont même les cyclistes sur la même voie. Alors la police, l'ambulance, les sapeurs-pompiers vont rouler où? Vont rouler où? Et les vies humaines vont mourir. Nous avons un grand problème dans notre pays, tout simplement parce que les autorités de notre pays ne veulent pas du tout comprendre et mettre les choses en ordre dans le sens. Il faut donc insérer les services de prévention d'incendie dans tous les départements.
Nous prenons par exemple, donnez-nous un cas vraiment beaucoup plus imagé, ingénieur. Nous prenons par exemple le boulevard Lumumba, jusqu'à l'aéroport, des bonhommes et autres. S'il faut vraiment, dans le cas de la prévention, qu'est-ce qui doit être fait de concret?
Au cas où il y a un problème qui se dégage à l'aéroport ou comment?
Non, je dis dans le cas de la prévention parce que cette route-là est en bouchon, il y a des embouteillages en permanence. S'il faut, dans le cas de la prévention, pour des interventions, qu'est-ce qui doit être fait, par exemple? Un exemple imagé, c'est beaucoup plus parlant.
Oui, c'est-à-dire que la route, supposons par exemple des boulevards vers l'aéroport, il y a des embouteillages, tout ça, et ainsi de suite. Normalement, il devrait y avoir une bande de route bien signalée. Cette bande de route-là doit être déjà signalée avec des plaques. Avec des plaques pour informer aux passagers que, en cas d'incendie, tous les passagers doivent quitter sur cette bande. Et ça devient maintenant un trafic urgent où le véhicule des sapeurs-pompiers doivent passer. Donc, les usagers de la route doivent être informés. Dire que même vous circulez, vous roulez sur la route, sur les boulevards, bien entendu, mais vous devez savoir qu'en cas d'incendie, cette bande ici
vous
doit
la libérer.
Être directement dégagée dans le sens que les sapeurs-pompiers ou les
vous
interventions
empruntez.
Puissent se faire. Mais ces indications-là n'existent pas. C'est ça aussi le grand problème.
On vous garde en ligne, ingénieur John Kabudibudi. Nous rappelons que vous êtes spécialiste, ingénieur BTP hein, et expert en sécurité des bâtiments. On va aller au standard pour donner la parole aux auditeurs. Comment mieux organiser le corps des sapeurs-pompiers ici en République démocratique du Congo? C'est de ce thème que nous sommes en train d'aborder dans cette première partie du magazine Okapi Service. Chers auditeurs et auditrices, si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous vous rappellerons. Okapi. Le premier auditeur, il prend la parole depuis la ville de Lubumbashi, il s'appelle Jérémy. Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous.
Oui, bonjour Monsieur Tati, bonjour également à l'invité. Comment organiser les rôles des sapeurs-pompiers? Une thématique vraiment très importante. Parce que je me dis, si l'on n'y prend pas garde, nous allons commencer à dénombrer de morts et de dégâts énormes à chaque moment qui passe. Je voudrais dire ceci. Autant que la police assure la protection de personnes et de biens, il en est de même pour les sapeurs-pompiers de venir à la rescousse de cette population pour assurer sa sécurité ainsi que ce bien contre l'incendie qui se profile. J'ai été frappé, ça c'est avant d'entrer dans le jeu, j'ai été frappé par une école ici. J'ai vraiment eu beaucoup d'admiration pour une école. Si une école arrive à faire ça, mais je pense que ça doit interpeller l'État congolais. J'étais dans une école où j'ai vu, parce que j'ai un ami qui était là, et une école qui s'appelle Âge d'Or ici, j'ai été admiré par leur gestionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait ce qu'on appelle des séances de simulation. Et tous les enfants sortent, ils vont vers le lieu d'attroupement. Oui, c'est-à-dire, ils ont mis en place, donc c'est-à-dire, les sons des catcheurs, c'est-à-dire, il y a l'alarme qui doit annoncer lorsque toute situation arrive et entrer à l'incendie. Voilà la prévention. On prévient directement.
Ils ont également,
tous les enfants,
ils ont également placé des inspecteurs.
Exactement. On doit avoir ça. Mais et puis, vous avez une école. Il y a deux bidons d'eau de 20 litres. Comment vous pouvez arrêter donc faire face à une situation? C'est là que je dis ceci. Que ce soit pour les tenanciers des stations de carburant, les écoles, parce que aujourd'hui ça pullule comme des champignons. Mm. On va à nos terres, trois niveaux, quatre niveaux, mais on ne sait pas prévenir.
Oui, et ce qui est dangereux.
Mais dans ces écoles, il n'y a même pas d'eau de forage.
Et ce qui est très dangereux, cher auditeur, est que des stations-service sont voisines à des maisons d'habitation. Des dépôts de vente des produits pétroliers sont voisins avec des maisons d'habitation et ce sont des endroits très sensibles et dont des incendies peuvent se déclarer à tout moment.
Exactement. Il n'y a pas longtemps, il y a 5 jours, il y a un incendie vraiment terrible qui s'est produit sous l'avenue qu'on appelle Gabriel Kyungu Akumwanza, boulevard. Non loin d'un grand marché qu'on appelle SS. Vraiment, un incendie s'est vraiment déclenché là-bas et c'est avec retard que les sapeurs-pompiers pouvaient atterrir, comme Patrice chante souvent, que tout arrive toujours en retard. Et voilà, on assiste à un dégât qui arrive. Mais tout ça, c'est à côté de maisons. Il y a même ceux qui vendent du bois là-bas, etc. Mais c'est là que je dis ceci. Quand je vous parle de cette école, mais je vois que les enfants ont déjà des mesures. Ils savent que quand il y a un incendie qui se déclenche, les enfants doivent d'abord descendre tous. Il y a deux mécanismes de protection. Tout est bien détaillé. C'est là que je voudrais demander à l'État congolais de prendre des dispositions. Même pour les écoles, on doit avoir chaque école au moins avec l'eau de forage. Parce qu'en cas de situation, on doit intervenir directement. Pas laisser la population, les stations même d'essence. Nous ne refusons pas, c'est pour les avancées de notre économie. Mais pas jusque aller voir côte à côte avec des maisons d'habitation, côte à côte avec des écoles, et même des incendies. C'est grave, chose grave dans la ville de Lubumbashi. C'est devenu monnaie courante, en plein centre-ville. Comment expliquer ça?
Merci beaucoup, Jérémy Mwamba.
Est-ce qu'il y a un raccordement forcé, donc ça dit frauduleux là-bas, pour qu'il y ait tout le temps, on assiste à ce qu'on appelle incendie récurrent? Non. Tout simplement, nous sommes habitués dans notre pays à vivre les conséquences au lieu de s'attaquer aux causes et prévenir. Parce qu'on dit, mieux vaut prévenir que guérir.
Merci beaucoup, Jérémy. Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas le seul à vouloir prendre la parole. Allez-y rapidement.
Oui, je termine déjà. J'ai dit que lorsque nous mettons du cerier, les sapeurs-pompiers doivent rentrer sur le banc de formation pour être outillés en capacité pour pouvoir faire face à toutes les vérités qui arrivent et ça peut nous éviter les incendies et tous les problèmes qui en découlent.
Merci beaucoup, Jérémy Mwamba. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous avez pris la parole. Cette fois-ci, nous partons à Mbandaka pour donner la parole à Platini. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Platini Maputo, bonjour. Je salue les deux invités.
Il y a aussi des cas d'incendie à Mbandaka. Ah, je me rappelle.
Répétition.
Il y a d'ailleurs une baleinière qui a pris feu il y a 3 ou 4 semaines.
C'est
sur le rivage du fleuve Congo à Mbandaka.
Je souhaiterais me laisser un peu le temps parce qu'il y a beaucoup à dire.
Vous n'êtes pas... Allez-y rapidement.
La thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment une thématique vraiment intéressante. Et je suis flatté avec mon prédécesseur. Tout ce qu'il a dit, c'est ça ce que moi je passe aussi à dire. Mais moi, je peux dire ceci. Je dis à Tati Maputo. Le rôle de la police, c'est sécuriser la personne et leur bien. Mmh. Et le rôle du militaire, c'est sécuriser la territoire nationale. Mais le rôle des pompiers au Congo, c'est comment là? C'est comment avec le... Ici, dans la ville de Mbandaka, il y a 2 mois passés, parce que ici, moi, je reviens avec avec ce que moi je vis, ce qu'on a vécu et ce qui se passe sur le terrain. Il y a 2 ou 3 mois passés, comme vous le savez, le cas des baleinières, les naufragés, etc. Mais il y a une maison au centre-ville de Mbandaka. bouillé et sali parce qu'il y avait un dépôt de traces dedans. Et tout le monde vient et regarde comme ça, y compris les autorités, y compris les militaires, y compris les soldats. Il n'y a pas de plombier. Il n'y a pas...
Il n'y a pas de sapeurs-pompiers.
Il y en a pas, mais tout le monde regarde comme ça, et tout le monde s'écrit, et comme ça.
Et,
ça,
les sanis, et puis, les faits continuent à dévorer les dépôts jusqu'à... Oui, ok.
Mais jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce qu'il n'y a pas... Il y a qui incendie, il n'y a pas une voiture qui incendie, il y a quoi. Tout le monde, y compris le général, il reste comme ça, il regarde. Avant pas mon coco, qui ne pouvait pas monter. Avant pas mon coco, général, dans ma présence, moi j'étais là. Et ça m'a étonné. Et aussi, il y a aussi un autre cas, ici dans la ville de Mbandaka. Si vous connaissez bien la ville de Mbandaka, avenue Bonsomi et Kouazema Beni Mouji, au centre-ville.
Je connais bien Mbandaka.
Il y a une incendie qui, oui, il y a une incendie qui s'est fait là-bas, papa. Tout le monde regarde comme ça. Il n'y a pas un plombier, je dis.
Ça ne peut pas vous commencer.
Tout le monde regarde comme ça. On appelle l'autorité, le tout le monde dit, mais n'est-ce pas la ligne? Tu vois? Et moi, t'es pelé, Donc, ça s'est fait et à haut niveau. Et maintenant, là, il y a un cas qui se passe dans la ville de Mbandaka. Il y a une cité, maintenant, dit, le cité qui abrite l'université moderne de la ville de Mbandaka. C'est non loin, au centre-ville, au milieu périphérique. Mais maintenant, le cadastre, le service à titre foncier, l'œuvre donne le genre aux parcelles comme ça, sans pourtant mettre comment l'arrière, le route, ça pourtant, il n'y en a pas.
Les des avenues qui terminent en cul de sac.
Oui, donc, ça, c'est un quartier qui abrite l'université moderne, parce que le président, selon les formations, il va venir ici pour mettre le. Donc c'est ça. Donc là-bas, tout le monde sait que non, comme les militaires qui vont arriver ici, ça sera un quartier, tout le monde achète en cascade. En cascade, je vous dis. Et on ne tient même pas compte là où on peut réserver s'il n'y a aucun des familles. Ici aussi dans la ville de Mbandaka, nous avons deux stations. Nous avons Kobil et nous avons Engen. Vous connaissez bien la ville de Mbandaka, regardez vous-même là où un demi est stationné. Il y a tout au long des populations, en face, derrière, etc., les voitures passées par là. Mais s'il y a un cas des années, mais ça serait grave. Il n'y a pas le coup de plomb. Regardez aussi là, Kobil, reste. Il y a des gens derrière, moto, tout ça, tout ça.
Et
il y a
un cas des restaurants qui se développent de fortune, qui sont tout autour.
Donc c'est ça. Donc il n'y a pas. Ce qu'on dit, il n'y a pas de réserve. Et aussi pour terminer, ici dans la ville de Mbandaka, nous avons connu beaucoup de cas. Il y a un cas de nos points ici. Tout le monde regarde comme ça. Il n'y a pas de plombier, il n'y a pas anti-insani. Tout le monde regarde comme ça. Qui va aller là? Y compris les autorités. Non, non, qui est dans moto, à Zobanga. Donc, il n'y a pas mesure de réserve pour les plombiers. Alors, moi, j'ai une question à poser aux héritiers qui est aussi d'avoir affaire avec vous. La République démocratique du Congo, nous avons 26 provinces. Et aussi, il y a aussi des milieux périphériques dans cette ville. Mais des villes où il n'y a pas l'anti-incendie, etc. Au cas où il y a une incendie qui déclenche, qu'est-ce que la population peut faire?
Parce que tout le monde veut pas le geste de secours d'intervention en camp d'incendie, là où il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Une très bonne question. Merci beaucoup, M. Platini. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Mbandaka que vous intervenez. Cette fois-ci, nous partons à Bukavu pour donner la parole à Eminent. Bonjour et bienvenue, M. Eminent Mwanda. Et nous savons que il y a beaucoup de cas d'incendie à répétition dans les différents quartiers de la ville de Bukavu. Parce que des parcelles, des maisons sont en bois et des raccordements électriques pas viables occasionnent régulièrement des incendies à Bukavu.
Et surtout dans cette période aussi, je vous dis que nous sommes en train d'assister à un phénomène avec les camps d'incendie. C'est à chaque heure, à chaque moment où il y a des cas d'incendie. Et vous savez que nous sommes dans une zone où beaucoup de services étatiques ne sont pas là. Mais je sais très bien que pour aller tout droit au bout, la meilleure organisation des affaires, plombiers, d'abord, pourrait commencer par une organisation qui passe par la réforme de l'équipement, la coordination multisectorielle et une implication communautaire active. J'ai trois quatre questions à poser à l'invité, mais avant de les poser, Je pense qu'il y a certaines mesures stratégiques qui pourraient...
Monsieur Milan, s'il vous plaît, allez à l'essentiel, posez les questions, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent. L'invité également doit donner son avis par rapport à vos suggestions et témoignages.
Oui, merci beaucoup. La première question, monsieur Tati, pour moi, que doit faire la population si jamais elle assiste à des situations d'incendie sans pourtant avoir aucun secours de service à domicile? Parce que souvent, il y a des contributions et des taxes dont que la population est en train de faire afin de pallier ou au service de lutte contre l'incendie. Maintenant, si par exemple dans un quartier, monsieur Tati, il y a toujours un samedi, mais la population n'a jamais eu aucune intervention de ce service-là. Que doit faire la population? Est-ce qu'il fallait que la population commence à se prendre en charge et réussir à faire des tâches pareilles? Ça, c'est la première question.
Deuxième question?
La deuxième question, M. Tati, quel est le vrai rôle du service anti-incendie devant une situation d'incendie? Qu'est-ce qu'il doit faire vraiment, quelles sont les attributions des services anti-incendie? Parce que, on ne sait pas, parce qu'à chaque fois, on doit toujours recourir à eux. Mais,
troisième question, cher auditeur.
Dernière question, M. Tati. Quels sont les autres services que la population doit faire pour attirer beaucoup plus, pour au moins, contribuer soit à renforcer les capacités de service anti-incendie.
Merci beaucoup, Jérémy. Éminent, pardon, nous rappelons que c'est depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu, que vous avez pris la parole. Je me tourne vers vous, ingénieur John Kabudibudi. Vous êtes expert en bâtiment et en sécurité, des bâtiments. Comment répondez-vous à nos auditeurs, hein? Le premier de Lubumbashi, il a témoigné sur de l'éducation à la prévention de l'incendie dans une école, et il a vu également les matériels, hein, quelques matériels qui servent à éteindre le feu des étincelles. Et celui de Madnaka, il a témoigné que à Madnaka, en cas d'incendie, les gens ne savent pas par où commencer, tout le monde observe, même les autorités de la province.
Oui, merci pour les interventions des auditeurs. Le premier a parlé sur cette école-là où les enfants étaient en train d'être éduqués comment se sauver en cas d'incendie. Ce qu'il a parlé là, c'est l'exercice de sauvetage. Ce n'est pas l'exercice de prévention d'incendie, mais on est en train d'initier les enfants dans une école. Comment est-ce qu'ils vont se prendre en charge en cas d'incendie? Vous voyez ça? Ça, c'est très important et c'est très capital. Mais le problème, c'est que cette école-là, où les enfants étudient, cette école-là est-elle construite d'après les normes et les préventions d'incendie? Je dirais non. Parce qu'il n'existe pas une école en République démocratique du Congo qui a été dans la prévention d'incendie. Mais c'est du moins aussi bien d'apprendre les enfants comment faire se sauver en cas d'une incendie déclarée. L'autre intervenant dit qu'il y a des endroits où l'incendie est déclaré et la population inactive, même les autorités inactives, ils ne savent quoi faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ils ne vont rien faire, les gens vont mourir, non? Parce que le rôle de l'État, c'est de protéger les personnes et leurs biens. Ce n'est pas que la protection, ce n'est que lorsque nous parlons de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, absolument pas. L'État a le rôle, a le devoir de protéger même les Kinois, même partout où ils se trouvent, avec leurs biens, contre les incendies aussi. Alors, dans les cas où les gens ne savent quoi faire, donc c'est la responsabilité de l'État. Il n'y a pas donc la magie à faire là-dessus, parce que le service de prévention d'incendie, c'est un service purement congolais qui doit sauter les premiers pour organiser le secteur de prévention d'incendie. Voilà. L'autre a intervenu pour dire les habitants qui sont dans la maison, en cas d'incendie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? ils ne peuvent aussi rien faire. Tout simplement parce que, logiquement parlant, ce qu'ils devraient faire, c'est quoi? Lorsqu'on construit un bâtiment, avant d'entrer dans un bâtiment, il y a les notices, il y a les informations sur la prévention des incendies de ce bâtiment-là. Alors, ces notices ici, ces informations ici, les habitants de la maison doivent lire ces notices. Ils savent comment est-ce qu'ils vont s'échapper ou se sauver en cas de prévention d'incendie. Et ces notices ici sont données par l'ingénieur projecteur, celui qui a fait la projection de la maison. Mais étant donné qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas une loi qui réglemente la prévention d'incendie, et par conséquent, nous n'avons pas de projecteur en prévention d'incendie, et alors nous n'avons pas de notices qui définissent que lorsqu'on construit la maison, voilà comment est-ce qu'on peut se sauver. Je vous dis encore un exemple, Tati. J'ai été au Palais du Peuple un jour, en 2019. Je suis allé au Palais du Peuple, mais ce que j'ai trouvé, c'est pitoyable. Je ne savais pas où je me retrouvais en cas d'incendie. Donc, il n'y avait pas d'information. Comment est-ce que je peux me sauver en cas d'incendie? Or, le Palais du Peuple, c'est un bâtiment purement public. Les gens qui viennent là n'ont pas habitué toujours à être... Il y a les étrangers qui arrivent, il y a ainsi de suite, beaucoup de gens qui arrivent là-bas, ils doivent être informés en cas d'incendie, ils doivent faire quoi pour se sauver. Mais ces notices-là, même au niveau du Palais du Peuple, il n'y en a pas. Même, j'ai été même comment, à la radio, notre radio congolaise ou congolaise, tout ça.
Il y a ces notices-là.
Qui montrent comment, en cas d'incendie, comment les gens vont se sauver. Tout ça, c'est le manque, n'est-ce pas, de la réglementation ou bien de la loi sur la prévention d'incendie. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions qu'il fallait nécessairement répondre parce que
oui, ben même des immeubles qui poussent ici à Kinshasa et à travers le pays, les constructeurs ne prennent pas ces précautions, c'est ce qui est pitoyable. L'auditeur de Mandaka a également fait allusion aux stations-service qui sont voisines à des parcelles, où il a évoqué les cas des deux stations-service qui sont en Mandaka, où il y a des restaurants à côté et puis aucune précaution et des dépôts de produits pétroliers où les gens y cuisinent. D'ailleurs, dernièrement, il y a une baleinière qui a pris le feu parce qu'une dame est en train de faire la cuisson sur la barque.
Oui, mais c'est ça. C'est ce que je vous ai dit au départ, que c'est les toi-boi en République démocratique du Congo. On ne sait quoi faire. Parce que même un restaurant, lorsqu'on construit un restaurant est dans une catégorie d'un bâtiment dangereux où il peut y avoir le feu à tout moment.
À tout moment, oui.
Alors, le restaurant doit être construit d'après les principes et les normes d'incendie. Même les stations d'essence qu'on est en train de construire par-ci, par-là, les maisons sont côte à côte. Il n'y a pas même de route pour que les véhicules des sapeurs-pompiers puissent passer. Donc, il y a donc un désordre très systématique dans notre pays. Pourquoi? Parce que ce domaine de prévention d'incendie n'est pas mise en considération et n'est pas respectée. Et c'est un domaine inconnu en République démocratique du Congo.
L'auditeur de Bukavu, il a voulu savoir, hein, parce que ces services ne sont pas déployés dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, que doit faire la population? Parce qu'il y a l'autre de Mandaka qui a témoigné qu'en cas d'incendie, tout le monde observe les bâtiments jusqu'à ce que ça sera dévoré par les feux. Quelles précautions ou la population doit faire quoi en cas d'une déclaration d'incendie?
La population doit revendiquer. La population doit faire la marche. Aller voir le gouverneur faire les marches, non? La population doit aussi, c'est de leur droit. La population doit être protégée, c'est de leur droit. Ils doivent réclamer cela, ils doivent faire les marches. Parce que les services de prévention d'incendie, j'aurais appris que c'est géré par le ministère de l'Intérieur.
Oui.
C'est le ministère de l'Intérieur qui gère ce service-là. Pourquoi ils ne prennent pas des précautions dans ce domaine-là pour régulariser la situation de prévention d'incendie en République démocratique du Congo? Mais laissez-moi vous dire que dans ce domaine-là, si ce domaine est régularisé dans notre pays, c'est beaucoup d'emplois. On aura beaucoup d'emplois, c'est beaucoup d'argent qui vont entrer dans la caisse de l'État, tout simplement parce que tous les bâtiments qui seront construits en RDC, des flats, les hôtels, les écoles, il y aura les exigences de répondre à la prévention d'incendie. Mais pourquoi le ministre de l'Intérieur ne s'étarde pas là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il faut faire enfin d'introduire les principes ou les réformes. Je ne peux pas parler de réformes parce que au départ, il
n'y a rien.
De créer donc les lois et réglementer ce secteur-là. Donc la population doit faire des marches et déclarer de leurs droits pour qu'ils soient protégés en cas de prévention, en cas d'incendie.
Et il serait aussi important que l'on puisse développer des partenariats publics-privés si, dans le cas où il n'y a pas assez de moyens pour créer des écoles de formation, faire de la prévention, de la sensibilisation.
Effectivement, partenariat public-privé, c'est bien, mais le partenariat là est sur base de quoi? Le partenariat ne peut pas exister à partir du moment où il y a un vide juridique, mon ami. Le vide juridique dont je suis en train de crier ici, c'est la loi sur la prévention des incendies. Lorsque nous avons une loi sur la prévention des incendies, à ce moment-là, c'est très bien. On peut créer le partenariat public-privé. Il y a des privés qui peuvent aussi entrer dans la danse en respectant, en se référant à la loi de la prévention des incendies. Et aussi maintenant, tous les particuliers qui construisent des maisons, ils seront obligés de contacter les projecteurs en prévention des incendies de manière que ce dernier puisse insérer le plan de prévention des incendies dans leurs hôtels, dans leurs ouvrages. Mais à partir du moment où il n'y a pas donc cette loi de prévention des incendies, oui, partenariat public-privé, il y en aura, ça sera des mascarades et le travail sera à 20%.
Et en même temps, mais on voit en même temps, ingénieur, que dans les bâtiments qui sont en construction ici, dans les différents chantiers, nous voyons souvent des panneaux, autorisation de construire délivrés par les ministères d'urbanisme et habitat. On suppose que en amont, ils ont tenu compte de tous ces aspects, mais en réalité, c'est ce qui ne se fait pas sur terrain.
Oui, les panneaux, bien sûr, vous voyez tous ces panneaux-là, ce sont... D'ailleurs, même, il y a à manger à boire dans ces domaines-là. Mettons même de côté les problèmes même d'incendie. Mais l'autorisation de bâtir qui sont données en République démocratique du Congo, c'est fonction de quoi? On tient compte de quoi? C'est du n'importe quoi. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a une parcelle de 20 mètres sur 20 et qui construit sur toute la surface et ce dernier a le permis de construire. Non, c'est... il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dans le domaine d'urbanisme et habitat. Donc... on a un problème sérieux dans le pays, mais c'est pitoyable de voir que les autorités de notre pays qui cherchent, n'osent pas, qui n'ont pas la volonté, voulais-je dire, de mettre les choses en place dans le sens que le pays arrive, n'ose pas, à se développer durablement. C'est pitoyable.
Et alors, l'auditeur de Mandaka, il a voulu savoir, hein, il a voulu que vous puissiez répéter les rôles, savoir exactement les rôles des sapeurs-pompiers et les rôles des projecteurs, hein, dans le cadre de la prévention des incendies.
Ça, c'est une question pertinente. Il a posé une question pertinente. Avant que les sapeurs-pompiers interviennent, il faut d'abord qu'un ingénieur projecteurs en prévention d'incendie interviennent. Ils interviennent comment? Les projecteurs interviennent dans le plan de l'architecte, dans le plan d'une route, dans le plan des tunnels, dans le plan des bâtiments, dans le plan des hôtels. Il intervient, il insère son plan à lui. D'ailleurs, les projecteurs en prévention d'incendie corrigent même l'architecte. Ce que lui dit, c'est ce que l'architecte va dire, va faire. Si il lui dit, placez la fenêtre là-bas, votre fenêtre doit être de 2 mètres ou de 1 mètre 50, c'est ce que l'architecte va faire. C'est-à-dire, lui, il est en train de prévenir l'incendie. Il refuse à ce que l'incendie arrive dans le bâtiment. C'est ça le rôle d'un projecteur.
D'accord.
Il fait son plan, un plan de projection du bâtiment contre l'incendie. Il va dimensionner, il va calculer, il va faire les schémas d'installation. C'est ça son rôle à lui. Il faut exécuter cela et le travail réalisé fini. À ce moment-là, le sapeur-pompier intervient. Intervient comment? Quand bien même le projecteur a fait la projection pour s'opposer à l'incendie, mais l'incendie a été têtu, s'est prononcé quand même dans le bâtiment. Et à ce moment-là, le sapeur-pompier arrive pour éteindre le feu. Et pour que les sapeurs-pompiers arrivent à éteindre le feu convenablement, ils doivent avoir les informations des projecteurs. Ils ont d'abord au préalable les notices du bâtiment où se trouve la fenêtre de sécurité, où se trouve la porte de sécurité, comment l'ouvrage est ventilé. Tout ça, ils ont déjà dans leur contour, dans leur bureau au préalable. Et c'est ainsi qu'ils vont venir intervenir avec facilité, avec fierté, et les gens seront sauvés.
Oui,
donc, les sapeurs-pompiers interviennent pour éteindre le feu si le feu est déclaré.
Sur base du plan élaboré par les projeteurs.
Ils projettent en révisant qu'il n'y ait pas le feu. Il dit que non, je ne veux pas qu'il y ait le feu. Voilà comment nous allons dimensionner. Et en plus de cela, les projecteurs minimisent. Il va minimiser donc l'effet du feu. C'est-à-dire, lorsque ça brille chez moi, chez les voisins, cela ne doit pas brûler.
Oui.
Si ça brille, par exemple, dans ma chambre, dans les coffres forts, ça ne doit pas brûler. Ça, c'est le rôle maintenant d'un projecteur en prévention d'incendie. Il va délimiter l'incendie dans un bâtiment, dans un immeuble, dans une école. Voilà, c'est ça son rôle. Ils ont des rôles différents. Le projecteur a un rôle en amont. Et le sapeur-pompier a un rôle en avant.
En avant, en camp d'intervention.
Lorsque le travail d'amont n'est pas exécuté, celui qui viendra en aval aura des difficultés de pouvoir travailler convenablement. Et parfois, il va être sur le lieu, il regarde comme ceci. Il n'y a pas moyen d'intervenir parce qu'il ne sait quoi faire.
Nous
c'est
tenons...
la raison pour laquelle vous voyez d'abord, dans certains endroits, les sapeurs-pompiers arrivent, ils regardent le feu, ils ne savent quoi faire.
Par où commencer?
Parce qu'il n'y a pas eu de projection.
Oui. Nous allons prendre deux derniers auditeurs, hein, ingénieur. On vous garde en ligne et puis nous allons retourner ici au studio. Monsieur Franck, vous nous appelez depuis la ville de Vienne, en Autriche. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour à vous, monsieur. Merci, et bonjour aussi à l'invité. Merci beaucoup pour ce qu'il est en train de donner comme détail technique très, très pertinent.
Nous vous écoutons.
Oui, merci. Et hors de l'aspect de la réglementation juridique qui manque dans notre pays par rapport aux situations préventives anti-incendie, je peux seulement me permettre de les compléter en ajoutant qu'il y a même une absence criante sur le volet éducatif. Parce que dans notre système éducatif, on nous éduque à être ceci, à être cela, mais parfois on ne nous initie pas à savoir comment on peut se comporter quand on est en face de telles situations. Et par rapport à ce qu'il a dit, il y a vraiment une absence criante à beaucoup de niveaux transversaux. Parce que au niveau de la loi, on devait maintenant arriver à créer une synergie au niveau des ministères. Ministère de sécurité intérieure, habitat, urbanisme, même au niveau de l'environnement. Mais comme il n'y a pas de loi, l'État congolais octroie des permis de construction et chacun construit selon comme il lui plaît. Et dans l'autre état, c'est du désordre que nous sommes en train de vivre. Et il a évoqué beaucoup de choses, beaucoup de détails très, très pertinents, mais je crois que ce sont toujours des rappels qu'on a fait sur vos zones ici pour revoir un peu la conception de l'éducation de chez nous. Parce que pour le moment, par exemple, quand il y a des incendies, au lieu de chercher à intervenir, on voit seulement les gens en train de photographier. Et dans l'entretemps, on laisse les gens mourir. Et après, on prend les images, on les fait.
On partage dans les réseaux sociaux.
Donc, ce que l'invité est en train de dire, je crois que ceux qui sont dans des bureaux, dans des cabinets de ministres, sont en train de les suivre. Parce que dans notre pays, on fait intervenir des experts dans certains domaines vraiment clés pour la vie des citoyens. Ils donnent de la matière, ils donnent des orientations, ils rappellent ce qui doit être fait. Mais après, ça va rester comme ça. Donc, on ne va même pas chercher à l'aborder pour lui demander d'approcher les dirigeants pour leur donner des éléments techniques afin d'améliorer la qualité de la vie des citoyens.
Vous voyez, et par exemple,
dans une ville comme Kinshasa,
vous voyez, par exemple, cher
avec
auditeur,
autant de millions d'habitants.
Oui, mais c'est
si nous avons, par exemple, des édifices publics qui ne sont même pas sécurisés. Mais on ne s'est jamais rendu compte du fait qu'on est toujours en danger permanent dans notre propre pays. Que ça soit dans des bureaux de l'État, que ça soit dans des bureaux privés, partout, quand on construit chez nous, on ne tient pas souvent compte de cet aspect. Et quand on ne tient pas compte de cet aspect, quand il y a un incendie, on ne saura pas par où commencer. Mais ici en Europe, même dans un petit village de 300 à 500 habitants, vous allez voir qu'il y a un service anti-incendie. Il y a des dispositions qu'ils prennent, il y a des groupes qui doivent rôter, ils sont toujours en permanence, en état d'alerte, d'alarme. Dès que ça sonne quelque part, dès qu'on appelle, on doit courir pour aller secourir. Mais c'est ce qui manque chez nous. Et c'est un service qu'on devra insérer au niveau de la transversalité de certains ministères. Mais il faut d'abord de la volonté politique, de la vision et aussi de la détermination. Parce que ça ne sert pas de venir voir chez les autres. Vous dites que nous voulons moderniser chez nous et la modernisation de chez nous ne s'arrête qu'au niveau des déclarations verbales, au niveau des bonnes intentions. Mais quand il faut peut-être disponibiliser des fonds pour les réaliser, soit cet argent est détourné, soit il y a des rétrocommissions, finalement, on s'arrête seulement à parler et en plein 21e siècle, même au niveau de l'aéroport, je crois qu'il y a un mois peut-être, il y avait des images qui circulaient.
Oui.
Il y avait une incendie là qui avait des
tachés là, mais
le véhicule entier qui était arrivé n'avait même pas de l'eau. Et ça, c'est vraiment un problème de culture, un problème de vision, aussi un problème de gouvernance, parce que un gouvernement qui se sait responsable parmi ses attributions régaliennes les plus élémentaires, c'est aussi d'assurer la sécurité, la protection de ses citoyens. Et cet aspect des incendies, c'est parmi les cas qui peuvent vraiment décimer des populations. Mais malheureusement, l'invité a donné de très bons éléments, de très bons détails. Il est vraiment expert, je lui dis merci, mais je me demande qui va l'écouter dans notre pays. Qui l'écoutera? Parce que il parle en 2025, mais nous reviendrons encore peut-être en 2028. N'y aura aucune structure du pouvoir en place qui pourrait s'intéresser à l'approcher pour qu'il vienne aider sur place là-bas. Et c'est comme ça qu'on est en train de faire fuir des cerveaux, des experts qui pouvaient travailler chez nous, ils se retrouvent ailleurs, ils rendent service là-bas, alors que les mêmes services, on pouvait les rendre chez nous pour plus d'efficacité, pour plus de beauté en tant que citoyen congolais. Je crois m'arrêter là. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Franck. Excellente journée. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Vienne, en Autriche, que vous avez pris la parole. Et je m'excuse également pour les deux auditeurs qui sont au standard. On est coincé par les temps. Nous ne savons pas vous donner la parole. Je me tourne vers vous, ingénieur John Kabudi-Buidi. Nous rappelons que vous êtes expert en BTP et en sécurité des bâtiments. Comment réagissez-vous aux propos de M. Franck?
M. Franck, il a bien agi, il a bien parlé. Je pense qu'il est en Europe, vous avez dit. Il voit ce qui se passe en Europe. On ne peut pas dire que nous avons des soucis de moderniser le pays sans tenir compte des services de prévention des incendies. Et Tati, je vous dis que attendons voir dans quelques années ici si la ville de Kinshasa ou bien la République démocratique du Congo sera électrifiée, vous verrez combien de milliers et des milliers de Congolais vont mourir. Je vous dis franchement, vous verrez avec l'incendie. Parce que nous voulons qu'il y ait l'électricité partout là, tout ça, sans réglementer les domaines de prévention des incendies. Mais c'est vraiment pitoyable. Moi, ici où je suis un inspecteur. Au-delà de ce que je fais comme travail, j'ai la responsabilité je suis un inspecteur en prévention des incendies. C'est-à-dire, mon rôle à moi maintenant est de voir si les projections qui ont été faites par les projecteurs sur les chantiers, c'est réalisable ou ce n'est pas réalisable, il y a des erreurs ou il n'y a pas des erreurs. Donc, je pense que l'État congolais doit prendre cela au sérieux. Ce n'est pas les sapeurs-pompiers, nous pouvons en former, on peut former les sapeurs-pompiers, mais la plus grande des choses, le départ, c'est la règle, c'est de créer les lois et principes sur la prévention d'incendies. La
main
d'œuvre, il y en a.
Oui.
Bien entendu, même à Kinshasa, ça fait défaut.
Oui.
Mais il y a les gens qui ont des volontés, qui peuvent aider le pays dans ce domaine-là de prévention des incendies. Mais on fait quoi? C'est ça le grand problème.
Merci beaucoup, ingénieur John Kabidi-Boudi. Nous rappelons que vous êtes expert en BTP et en sécurité des bâtiments. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous d'Okapi Service. Et espérons que ce n'est pas du tout la dernière fois. Excellente journée et à très bientôt.
Merci, c'est moi qui vous remercie.